musique du monde, Laurence Alloa, Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi?
C'est un mélange entre Jésus et Che Guevara.
Il revient à ma mémoire.
Ils ont mal fini tous les deux. Hein.
Ils ont mal fini tous les deux, oui. Merci madame.
Musique du monde où l'on reparle de Rachita, l'étoile filante, Medine Lakasba, décédée en 2018, un 12 septembre. Tout Rachid, With Love est une création du festival Banlieue Bleue, un festival qui se tient donc dans les banlieues parisiennes. Cette année, c'est du 19 mars au 22 avril. Une date, le 23 mars, Maxime Delpierre avec le Kebab Loula et Rodolphe Berger avec le Couscous Clan. Rendons hommage à Rachita. Rodolphe Berger et Maxime Delpierre sont nos invités. On va démarrer cette émission avec le titre Zoom sur Oum. C'était enregistré à RFI en 2013 pour la sortie de l'album Zoom précisément. Et Maxime, vous étiez à la guitare.
Quand je m'oxyde du monde d'Orient, qu'aucun soleil ne m'emmène vers des chats aux yeux perçants, qu'aucun vent ne vient d'Aden pour me sabler du champagne, qu'aucun tapis ne m'envole sur les barrières, les montagnes, sur les barrières, les montagnes. Alors je m'affranchis des enclaves, me désesclave, je m'adresse des timbres tarabiscotés, des langues roulantes et intrigantes, aux arabesques intrigantes, aux arabesques intrigantes.
Oum, sur Oum, le temps d'une mélopée, je zoome sur Oum et ça me désoriente.
Quand je m'oxyde de l'Occident, quand tout est gris, quand tout est terne, qu'ici la vie montre les dents, voudrait se croire éternel, quand le désert parle à mon âme, me dit le vent, viens du Levant. Et que j'entends, c'est je t'attends, que j'entends, c'est je t'attends.
Maintenant, il y a les applaudissements qu'on mérite. Nous sommes trois autour de cette table, Maxime Delpierre, Rodolphe Berger et moi-même. Vous êtes les invités de cette émission parce que le 23 mars, vous serez à Aubervilliers, à l'Embarcadère, dans le cadre du festival Banlieue Bleue, pour une soirée qui va s'appeler To Rachid With Love. Alors là, on a démarré avec ce titre, c'était Rachita en 2013, RFI, dans cette émission, dans la session live. Vous faisiez partie des musiciens, Maxime?
Tout à fait, oui.
Votre rôle était plus important à l'époque de la sortie de Zoom. Vous étiez un petit peu le maître des horloges.
Oui, il m'avait demandé de diriger un petit peu l'orchestre. En fait, je débarquais, hein, j'avais rencontré Rachid juste au moment où il était encore en train de faire cet album. C'était plutôt une bonne rencontre. L'équipe avait un petit peu bougé. Et voilà, on a commencé un travail.
Alors Maxime Delpierre, je vous présente rapidement. L'autre invité, bien sûr, est Rodolphe Berger, mais je le présenterai ultérieurement, c'était dans 5 minutes. Maxime, vous êtes compositeur, vous êtes réalisateur, vous êtes un guitariste autodidacte, mais bon, ça passe par le jazz, qui est une école. Je nomme quelques personnes dont vous avez croisé le chemin, le trompettiste Médéric Collignon, le clarinettiste Louis Clavis, vous avez fondé Viking avec le saxophoniste Thomas de Pourquerie, vous avez réalisé le premier EP de Jeanne Adède en 2011, dont la carrière maintenant est sur orbite. Vous avez De fait, via Rachita, croisé Damon Albarn ou Mick Jones, est-ce que tout ça est vrai? Puis j'en ai oublié.
Tout ça est vrai.
Rodolphe Berger, Maxime Delpierre, vous connaissez forcément, puisque Rachita est votre trait d'union. Est-ce que musicalement, vous trouvez une forme de cousinage? Est-ce que la guitare de Maxime trouve écho dans la guitare de Rodolphe et vice-versa?
Je connais Maxime depuis fort longtemps.
C'est-à-dire le siècle dernier?
Oui, oui. Alors, quelle année? Je suis incapable de le dire, mais en tout cas, je me souviens très bien la première fois que je l'ai entendu. C'est Fred Poulet qui m'a fait découvrir Maxime en live. C'était à Montreuil, je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, complètement.
Voilà, j'étais tout de suite très frappé par son jeu de guitare, parce que je suis évidemment assez sensible à cet instrument. Et je trouve qu'en France, il n'y a pas tant de guitaristes que ça. Beaucoup de gens jouent de la guitare, mais Max a un vrai talent de guitariste déjà, mais ce n'est pas que un guitariste. Du reste, on parlait de Fred Poulet, il a réalisé récemment le nouvel album de Fred Poulet, The Soleil, qui est sorti sur une dernière bande. Et entre-temps, je l'avais sollicité, c'était... l'année, il ne faut pas me demander, mais c'était à l'occasion d'une mise en scène...
2005,
voilà, bravo. Schweck de Brecht, aux Amandiers, de Nanterre.
Rodolphe Berger, je fais votre bio, mais extrêmement rapidement, c'est pour resituer pour les gens qui nous écoutent et qui, par hasard, ne vous connaîtraient pas. Vous êtes compositeur, guitariste, chanteur, vous avez fondé le groupe Catonoma à la fin des années 80. On parlait de vous à l'époque comme le Lou Reed français. On sait que vous êtes passionné par le Velvet Underground, les comparaisons ne sont jamais très agréables pour les artistes, mais enfin, en l'occurrence, là, ce n'est pas vraiment très très grave. Carrière solo à travers votre label dont vous venez de parler, Dernière Bande. Vous avez aussi la compagnie Rodolphe Berger qui est toujours active.
Oui, oui, plus que jamais.
Plus que jamais. Et donc, les collaborations sont un peu la couleur de votre travail. Les gens qui sont accolés à votre nom, c'est Alain Bachung, c'est Jacques Higelin. Je vais vous poser une question à tous les deux. D'où vient l'idée du couscous clan? Ça, c'est pour vous, Rodolphe. Et pour vous, Maxime, l'idée du kebab aloula. On commence par Rodolphe, si vous voulez bien.
Le couscous clan, c'était d'abord une blague récurrente de Rachid. On se connaît depuis très longtemps, on se connaissait depuis les fins des années 80, quoi, avec Rachid, et cette histoire de couscous clan, c'était une de ses bonnes blagues. On va faire le couscous clan.
Le couscous, on met beaucoup d'ingrédients.
Ouais, mais c'était comme, je vais ouvrir une épicerie, je vais l'appeler l'arabe du coin, etc. Sauf qu'un jour, on a vraiment eu envie de le faire. On a commencé en fait par des concerts tout à fait clandestins dans des bars de Nanterre, pas du tout annoncés. On s'installait dans le bar, on montrait des scopitones. Il y avait une collection de scopitones magnifiques. Il y a eu un nombre incroyable de scopitones réalisés pour des vedettes de l'immigration. Et donc on les montrait, les gens, il y a eu un bouche à oreille, un téléphone arabe pour le coup, vraiment. Et le bistrot se remplissait, et voilà. Et on a fait quelques happenings comme ça dans des bars. Et une autre fois à Nanterre aussi, dans un foyer de femmes. C'était génial, il n'y avait que des femmes, des jouyou. Et donc l'idée, c'était de mélanger nos trucs, quoi. C'était nos références, mais aussi, on croisait les musiciens. Des musiciens à lui, des musiciens à moi. On a joué, on a fait un concert mémorable dans un bar qui s'appelle Chez Midi à Sainte-Marie-aux-Mines, parce qu'il faut savoir que Rachid a vécu à Sainte-Marie-aux-Mines, ce qui est quand même hyper improbable.
Donc c'est le petit village alsacien
village,
dont vous êtes
originaire. Petite ville, quoi.
Oui, petite ville, pardon.
C'est pas un village, mais quand même, c'est tout petit. Il y avait 6000 habitants, quelque chose comme ça. Et au moment où on y a vécu, Rachid et moi, et sans se connaître, on se croisait sans le savoir. C'est quand même dingue, il a vécu 3 ans là-bas. Donc j'imagine le petit Rachid arrivant du bled à 10 ans, dans cette vallée pluvieuse d'Alsace et tout. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'il gardait pas que des super souvenirs, mais quand même, globalement, il revendiquait même. Je suis alsacien, quoi. Il connaissait 2-3 mots. Et donc, s'est beaucoup amusé avec ça aussi. Donc, le choucroute clan, etc. Je chante en alsacien sur Abdelkader. On a fait un peu des folies. Et puis, un jour, c'est devenu sérieux parce que c'est arrivé aux oreilles de Vincent Baudrier, qui dirigeait le Festival d'Avignon, qui prenait la direction du théâtre de Vidi à Lausanne, tu vois, un truc un peu costaud. Il est venu voir, il disait, on pourrait faire le couscous clan, je veux marquer mon arrivée.
Au Festival d'Avignon.
À Lausanne,
à Vidi.
À Vidi, et je cherche un truc. Est-ce qu'on pourrait faire le couscous clan? Et donc là, ça devenait, je suis allé en repérage, on a fait ça sur le toit du théâtre de Vidi, et là on a répété. C'est la première fois qu'on répétait. Avant, c'était vraiment fait à l'arrache. Et du coup, on a constitué un répertoire, et voilà, et c'est devenu un vrai projet, d'une certaine manière. C'était plus une blague.
Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'était, en tout cas avec Rachita, le couscous clan. C'est un son qui vient de chez vous, Rodolphe. Vous ne serez pas surpris, a priori.
C'est l'ordonnance.
Vous savez, Rodolphe Berger, quand est-ce qu'a été enregistré ce moment du Couscous Clan avec Rachid Taha?
Oui, tout à fait. C'est en tout cas où ça a été enregistré, bien sûr, c'est à Calais. Le dernier concert, le dernier, c'était à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. 12 jours, ouais, ou quelques jours avant sa disparition. C'est incroyable, quoi. Parce que mais là, c'était à Calais, oui.
On en parlait juste avant de faire cette émission. L'année 2018 a été lourde pour vous, Rodolphe Berger. En avril, Jacques Higelin s'envole. En septembre, c'est Rachid. Et puis, des amis aussi dans le monde de la littérature.
Oui, Paul Tchaïkovski, Laurence. Puis voilà, on...
L'anniversaire de
l'anniversaire de la mort d'Alain, alors que j'ai l'impression que c'était hier. Donc, enfin, oui, c'est l'hécatombe, quoi. De toute façon, à partir d'un certain âge, on est obligé de vivre avec ça, quoi. Avec cette espèce de... C'est pas quotidien, mais presque, quoi. Enfin, voilà, on perd des gens, des êtres chers. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment? Dans le cas du couscous, je crois pas au travail de deuil. Ça n'existe pas trop pour moi. C'est vrai qu'on, voilà, on continue, mais ça, enfin, tout d'un coup, ça, il revient dans ma mémoire. Et dans le cas de Rachid, moi, très, très vite, les musiciens m'ont posé la question. Je leur ai proposé qu'on donne suite au Couscous Clan, ça me paraissait une évidence, quoi, de continuer. C'est ma façon vraiment de rester avec lui. Et le projet du Couscous Clan, c'était notre truc à tous les deux, mais avec une idée, vraiment un principe d'hospitalité. Hein. On avait envie d'inviter à notre table.
Est-ce qu'à cette table, on peut inviter un chanteur comme Sofiane Saïdi, par exemple?
Bien sûr, lui, il s'impose quasiment. Hein. Sofiane est... Je ne sais pas s'il faut dire l'héritier naturel de Rachid. En tout cas, c'est la famille, absolument. Et là, non seulement c'est un grand chanteur, un très très bon chanteur, mais aussi il a ce truc rock'n'roll qu'avait Rachid, quoi.
Il vit, il aime l'ivresse, jusqu'au matin qui fait mal aux cheveux, il vit.
Oui, enfin voilà, on était... donc ça, c'est... En même temps, il ne s'agit pas de remplacer Rachid, bien sûr. Donc... On va continuer à inviter à la table du Couscous Clan.
Rendre hommage à un artiste, c'est pas tellement votre crèmerie, Rodolphe Berger. Alors comment avez-vous envisagé cette soirée du 23 mars, qui reste quand même un hommage à Rachid Taha, avec Maxime Delpierre et le Kebab Loula, et vous avec le Couscous Clan? C'est un hommage sans être un hommage? Vous avez attendu 6 mois, enfin, comment vous arrivez à le concevoir?
Évidemment, dans l'esprit de Rachid, c'est-à-dire sous la forme d'une fête. Bien entendu, ça ne va surtout pas être un hommage compassé. C'est du côté du vivant qu'il faut célébrer Rachid. Rachid était la vie même. La vie même, c'était l'instant. C'était absolument pas donc quelqu'un dont on peut célébrer la mémoire d'une façon, comment dire, le moins du monde, compassée ou solennelle. C'est forcément en musique, et c'est forcément chaleureux, et c'est forcément...
Maxime Delpierre, vous, Rachid Taha, c'est Kebab Loula. Alors je lisais que Rachid Taha parlait de ce projet un peu comme d'un film. Pour lui, c'est une sorte d'Elvis Elvis Presley qui redescendrait sur Terre pour ouvrir un kebab.
C'était exactement ça. Ça nous faisait beaucoup rire. Ça faisait partie de l'humour de Rachid, comme a dit Rodolphe tout à l'heure. C'est comme Algérien à dire ou Algérien à déclarer. On arrive en contrôle de passeport quand on voyageait. Oui, du coup, en gros, c'est Xavier Lemaitre de Banlieue Bleue qui m'a proposé de faire un hommage. C'est vrai que des hommages, on va dire, en général, j'en ai jamais fait. Avant, je trouvais pas facile de réfléchir à celui-là parce que c'était pas très longtemps après son décès. Et donc, du coup, on était surtout dans l'émotion. Voilà, bon. Après, je crois que c'est super important pour moi et agréable l'idée que ce que j'aimais aussi beaucoup chez Rachid, c'était sa musique. J'ai beaucoup aimé ses disques, notamment Made in Medina, Zoom sur Room, Diwan 2. Et j'avais le sentiment, en tout cas ne serait-ce que dans mon entourage proche, on va dire, ou un peu moins proche, les gens ne connaissaient pas très bien finalement. Pourtant c'était un grand artiste, très connu, on faisait le tour du monde ensemble. Mais sa musique finalement, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je faisais écouter un morceau de Rachid Taha, les gens tombaient un petit peu des nues quand ils passaient à la maison. Et donc voilà, j'étais quand même très fan. Et je crois que c'est l'occasion, en gros. C'est l'occasion de pouvoir écouter sa musique, remettre le nez dedans, passer un petit moment avec lui. Et retrouver cet orchestre avec lequel j'ai tourné pendant 3 ans, c'était fabuleux. On s'est vraiment beaucoup, beaucoup amusé. C'était un très bon orchestre. Ça jouait très, très bien. C'était les scènes les plus importantes que j'ai faites dans ma vie.
Rachita était très apprécié par les grands musiciens anglo-saxons. Il semblerait qu'en France, son talent n'ait pas été reconnu de la même manière. Est-ce que c'est l'histoire de la France avec l'Algérie? Est-ce que c'est un rapport compliqué avec la langue arabe? C'est que de l'autre côté, les Robert Plant, les Brian Eno voyaient Rachid comme un bijou, quoi.
Bah oui, complètement. Ouais, c'était très improbable, en fait. C'était étrange de se retrouver aux côtés de Rachid en France. Bon, pas que en France, mais enfin, c'est surtout en France que c'était particulièrement étrange. Ça permettait en effet de mettre le nez un peu dans quelque chose que je pouvais voir quand j'étais gamin, en gros, dans les années 80, et à l'époque de Touche pas à mon pote, parce qu'il y avait une raison d'avoir fondé Touche pas à mon pote. En effet, il y avait vraiment un comportement étrange entre les gens et les gens d'origine arabe en France. C'était particulier, les gens avaient du mal à se situer là-dedans, à se placer, à trouver un peu leur place. Et j'avais le sentiment d'en mettre complètement, d'avoir la tête complètement là-dedans une fois que je travaillais avec Rachid. Me retrouver avec ce quotidien-là finalement et ces questions.
En 2008, Rodolphe Berger, vous sortez un album qui s'intitule No Sport, enfin pas de sport. En fait, c'est un clin d'œil au secret de longévité attribué à Winston Churchill, qui ont demandé comment vous faites pour être en si bonne santé. Je fais surtout pas de sport et je fume le cigare. Vous invitez Rachita sur un titre, sur l'arabe sédère. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, Maxime Delpierre, mais quand on parle d'arabécédaire, on pense évidemment à l'abécédaire de Gilles Deleuze, le film de Boutan. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce monsieur Berger a un diplôme en philo, l'équivalent d'un master deuxième année aujourd'hui, et qu'il a été l'élève de Jacques Derrida. Alors, Rodolphe, vous allez vous livrer un exercice de style assez particulier. Vous allez nous expliquer le déconstructionnisme comme si on avait 2 ans et demi d'âge mental. Ah. Est-ce possible ?
Non.
D'accord.
Mais attendez. Non, bien sûr. Il y a quand même pas mal de livres de Jacques Derrida. Il faut absolument admettre qu'ils sont impossibles à lire si on n'a pas un tout petit peu déjà frayé, pratiqué. C'est pas le cas de tous ces livres. Il y en a quelques-uns. C'est la même chose avec Deleuze. Mais quand même. C'est bien que vous parliez de Derrida, parce que Rachid adorait Derrida. Je ne dis pas qu'il le lisait tous les matins, hein, mais il adorait Jacques Derrida pour ses propos, pour ses positions. Il avait une intuition incroyable, de toute façon, Rachid. Hein. C'était quelqu'un qui était d'une vivacité intellectuelle incroyable, capable, dont une éponge, il y a une culture cinématographique démente, etc. Mais, donc il captait très très bien énormément de choses, et très très rapidement. Et il adorait Derrida, qui est né à El Bia, en Algérie, qui était un juif non sioniste. J'ai vu faire un jour une conférence devant une assemblée de juifs israélophiles et défendre de façon incroyablement courageuse le droit à l'existence du peuple palestinien. De la même manière, je dirais, Rachid était un arabe non antisémite. Clairement. Et voilà, du coup, il y avait quelque chose. Il voyait dans Derrida une figure fraternelle. Et d'ailleurs, Derrida lui aussi faisait des jeux de mots, comme Rachid. Lui, il parle de la nostalgérie. Rachid aurait pu dire ça.
Complètement.
L'abécédaire, Rachita Rodolphe Berger.
L'arabe dispose de 3 voyelles brèves. L'arabe dispose aussi de 3 voyelles longues. Ra. Il n'existe pas d'infinitif en arabe.
Shin, Sad, Vad. تعلم العربية معك يا حبيبي. علم هذيك اللغة يا سعيدي. علم العربية يا حبيبي. علم هذيك اللغة يا سعيدي. أتفكر في الشريعة أتفكر في الشريعة أتفكر في الشريعة لم نغني أتفكر في الشريعة أتفكر في الشريعة لم نغني سعيدي الصيف الشتاء
prononce entre le bout de la langue et le dessus des incisives supérieures.
D'elle
se prononce entre la partie latérale avant de la langue et les molaires. Z se prononce entre le bout de la langue et les bas des incisives supérieures. Je se prononce entre le bord de la langue et les racines des incisives supérieures. Il n'existe pas d'infinitif en arabe. Alors pour nommer un verbe, on le présente au passé. La conjugaison arabe comporte deux aspects principaux. L'inaccompli. L'accompli. Le verbe d'existence, c'est un exposant temporel qui fonctionne comme l'auxiliaire être. Par exemple,
les enfants étaient dans la rue.
L'inaccompli, apocopé, sert à la négation du passé. Alors pour nommer un verbe, on le présente au passé. Le verbe d'existence est un exposant temporel qui fonctionne comme l'auxiliaire être. Par exemple, les enfants étaient dans la rue.
Les enfants étaient dans la rue.
C'était l'arabécédaire de Rodolphe Berger avec la voix de Rachita. C'est extrait de l'album No Sport qui était sorti en 2008. Je crois que vous étiez même venu à RFI le 23 mars. Donc, et Maxime Delpierre et Rodolphe Berger avec les projets Kebab Loula et Couscous Clan rendront hommage à Rachita dans le cadre du festival Banlieue Bleue. Vous serez donc à Aubervilliers dans un lieu qui s'appelle l'Embarcadère. Quand Rachid est mort donc en septembre 2018, est-ce que, le silence radio, le silence TV, le silence presse, pas tout à fait, parce que quand même les gens en ont parlé, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué par rapport
Bien sûr. Ça ne m'a pas étonné, mais ça m'a choqué. Voilà, que je sache qu'une déclaration officielle, quand quelqu'un d'important me refait penser à Aznavour, Johnny Hallyday. C'est hallucinant. Bon, bref, aucune déclaration officielle, ni du ministère de la Culture, ni de l'Élysée. Là, récemment, Victoire de la Musique, si Jean Lindet n'avait pas salué Rachid, mentionné même pas sa disparition. C'est hallucinant.
Jeanne Haddad, qui a reçu deux prix aux dernières Victoires de la Musique, qui est la fête de la musique française. Elle a reçu le prix de la meilleure interprète féminine et le prix du meilleur album rock. Et c'est vrai qu'en disant merci, elle a cité quelques noms de personnes disparues, dont Rachita. Et c'est vrai qu'aux Victoires de la Musique, il n'y a pas été fait mention une seule fois de sa disparition. Ouais.
Et alors que, pour avoir joué avec Rachid en Angleterre et Maxime ici, c'était extraordinaire. Enfin, voilà, les Anglais s'y trompaient pas. Hein. Le vrai patron du rock en France, c'était pas Johnny Hallyday, je peux le dire.
Oui, je me souviens, au Barbican Center, au bout de 5 minutes, ils étaient tous debout sur les sièges. Ça a été, ça a pas lâché jusqu'au bout, c'était incroyable.
Bien sûr, le public et les musiciens, c'est-à-dire ses pairs, tu vois. Brian Eno était vraiment fan de Rachid pour de vrai.
Alors Brian Eno, pour les amateurs de rock, ils n'ont pas besoin de savoir, mais les autres, c'est Roxy Music, c'est David Bowie, donc c'est vraiment
le haut du panier. De Led Zeppelin, ou Damon Albarn, Justin Adams, Mick Jones.
Rock de Casbah.
Mais,
incroyable.
Il disait que s'il y avait eu reformation des Clash, le seul chanteur qu'il puisse imaginer, c'était Rachid.
Alors Rachid avait aussi ce talent-là, c'était de marier et la langue française et la langue arabe. Enfin, pas la langue arabe qu'on parle à la télé, c'est le dialectal algérien. D'ailleurs, il s'entretenait à ce sujet, sur le fait de chanter en arabe.
J'ai commencé en France dans les années 80. C'était une langue un peu en réponse à la situation sociale ou bien par rapport à l'attitude qu'on a vis-à-vis de la langue arabe. C'est-à-dire que dans les années 80, la langue arabe, et même maintenant, de toute façon, la langue arabe représente la peur dans les pays-là. C'est-à-dire que ça leur fait peur parce que ça représente... C'est le terrorisme, c'est l'islam. En France, à l'époque, c'était l'ouvrier immigré qui vient manger le pain des Français. C'est un peu Frankenstein, tu vois. Et donc, et pour moi, quand j'ai commencé à chanter en arabe, enfin en arabe, en algérien, c'est une manière à dire je vous emmerde et que cette langue, elle a quelque chose, elle a comme une richesse. C'est quand même elle qui a traduit Aristote et Platon et qui vous a permis d'accéder à une culture très émancipée en Europe. Donc la langue arabe fait partie du patrimoine culturel mondial.
La langue arabe, comme faisant partie du patrimoine culturel mondial, c'est la moindre des choses. Vous le disiez tout à l'heure, et très justement, Rodolphe Berger, il avait beaucoup d'esprit, très cultivé, cinéma, littérature, politique, il était incollable. Je ne sais pas si vous avez... Bah oui, vous avez passé énormément de temps avec lui. Donc il était quand même très pointu sur des sujets qui, des fois, nous passaient au-dessus de la tête. Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre, d'entendre sa voix?
Ça fait plaisir, parce que bon, déjà, il est vif, il va droit au but, et puis il est quand même assez unique, assez drôle aussi.
Ouais, il est là. Enfin, c'est vrai que voilà, enfin, moi je me dis, je crois pas au travail de Dave, dans le cas de Rachid encore moins, quoi. C'est-à-dire,
vous jouez ensemble début septembre et le 12 il s'en va, donc c'est insupportable, c'est trop violent pour le cerveau humain, c'est inconcevable.
C'est très violent.
Donc c'est violent.
Oui.
Ouais. Galbi, mon trésor, mon chéri.
Confiance à la et ce que je pense. Damon Harukarim, Damon Idafani. بيه نهبر شعري وحبي قلبي قلبي دايما حدايا قلبي قلبي دايما معايا قلبي قلبي دايما حدايا قلبي قلبي دايما معايا دايما أمن بيه صاحبي وصديقي دايما معاه ودريلي وخلصي رهن عليه كل شي انا مشي حرايمي هو صاحبي يداويني فرحني كتاب تبغي دمرني ويهديني كتاب تبغي دمرني ويهديني دايما أمن بيه صعبي وصديقي دايما ما هو دليلي وخلاص يوري لابوتي يولي لي الشرم والله 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 يعمل مبرم دايما تجول تجول الزهواني أم الشروقي يعني خليق وصافي أني خليق وصافي قلبي قلبي دايما حدايا قلبي قلبي
Galbi, c'est comme Habibi, c'est le démo arabe qui donne envie de tomber amoureux, ou ze. Galbi, c'était cette version de 2013, hein, quand vous êtes venu à RFI, Maxime, il y avait évidemment Hakim Abdouche. Et qui était à la base?
Juan de Guibon.
Oui, oui, oui.
Qui
oui.
sera là le 23 avec Kebab Lula aussi. Ah bah,
super ligne de basse.
Ouais.
Vous pouvez m'en dire peut-être un peu plus sur cette soirée du 23, on va commencer avec Maxime Delpierre et le Kebab Lula.
Eh bien, on va attaquer un peu la festivité pour avec kebab, en fait. Voilà, on va enclencher la soirée comme un concert de Rachid, avec un ordre de plus ou moins de 7, presque, on va dire, à moitié commun avec ce qu'on faisait à l'époque en tournée. Puis Rodolphe va arriver, il va continuer avec le couscous. On ne va pas s'arrêter, on va essayer de faire un continu. Un concert qui commence enchaîné, voilà, pas de changement de plateau, de pause, de je ne sais pas combien de temps, etc. Ça va être voilà, une transe qui démarre à une certaine heure et qui s'arrête quand on nous arrête.
Est-ce que vous voulez parler des invités, puisque c'est une forme aussi de couscous géant, votre affaire? Les gens qui vont venir vous rejoindre sur scène.
Et on a Sofiane Saïdi, en effet, qui va venir à la fois avec kebab, avec couscous également. Ouais. On a un peu toute l'équipe de Rachid, on va dire, tous les musiciens qui étaient un petit peu autour de lui ces quelques dernières années.
Il les appelait l'armée mexicaine.
Ouais.
Je me demande comment elle va faire cette armée mexicaine pour défendre l'album de Rachid Taha qui va sortir dans quelques jours avec Thomas Fetterman qui va être obligé d'aller défendre un album avec un chanteur défunt. Je ne sais pas du tout comment on organise ça, par exemple.
Je ne sais pas non plus. Je pense que ça va surtout être un bel album.
Ouais.
Et qu'à partir de ce moment-là, s'il est joué, c'est bien, je crois. Bon, moi, j'ai hâte de l'écouter, je n'ai pas eu l'occasion encore. Voilà, je crois qu'il faut juste qu'il sorte déjà.
Travailler sur un nouvel album, Rodolphe ?
Oui, tout à fait.
Porte un nom ?
J'essaye. Non, il n'y a pas de nom encore. Si vous avez des idées,
No Name.
Je suis preneur. C'est même carrément, j'ai l'impression que ça va être un double. Je vais présenter des nouvelles choses bientôt, au mois d'avril, à l'abbaye Noirlac, très très bel endroit, pendant le printemps de Bourges.
Ce sera une création ou ce sera cet album qui sera présenté ?
Ce sera des nouvelles choses, oui.
Des nouvelles choses.
Ouais. Ouais.
Donc pas de nom, mais ce sera nouveau. Vous, Maxime Delpierre, vous sortez avec vos camarades, c'est un quatuor, le quatrième album du groupe Limousine, ça s'appelle L'été suivant. Ce groupe est né de quelle envie ? Parce que ça fait plus d'une dizaine d'années, 15 ans que
ça fait 15 ans, on va les fêter cette année. Le fin mai, ça fera 15 ans qu'on aura fait notre premier concert.
Avec Laurent Bardem, Frédéric Soulard et
David Aknin.
Bravo. Et donc, sur quelle idée a été fondatrice pour la fondation de Limousine ? Vous vouliez faire quoi que vous ne pouviez pas faire ailleurs ?
On voulait déjà, en fait, on était des musiciens, on va dire, on était plutôt activés dans la scène free à Paris et on avait tendance à jouer souvent vite et fort. Et voilà, et en fait, on a eu envie de faire un groupe pour arrêter de faire peur, qui soit très lent, qui joue éventuellement, qui ait beaucoup de dynamique, quoi, qui puisse avoir des nuances, qui empêche les gens d'aller aux toilettes, par exemple, pendant le concert. Je sais pas, c'était un peu exagéré, mais en gros, on était un petit peu là-dedans au début. Voilà, on voulait vraiment que ça bouge pas du tout, que ça mette un petit peu le spectateur dans une situation finalement de participant, qu'il le veuille ou non. C'est-à-dire que s'il fait du bruit, toute la salle l'entend. C'était un peu le projet de départ. On voulait faire des balades qui soit un peu comme ce qu'on aime beaucoup. On n'aime pas que ça dans le jazz, mais on aime beaucoup ça. Je me souviens avec Laurent Bardem, on parlait beaucoup de Billie Holiday, de Lester Young, de Charlie Christian, sur une certaine période du jazz où des fois il pouvait y avoir des balades extrêmement mélancoliques, avec des instrus finalement très... ça restait toujours assez minimal, c'était pas tellement démonstratif. Voilà, on avait envie de proposer quelque chose comme ça, quelque chose qui sorte un petit peu d'un... qui soit pas les enjeux du jazz habituel, qui nous transforme en instrumentiste héroïque quelque part, c'est-à-dire qu'on voulait juste utiliser ce qu'on savait faire pour arriver à poser la note avec le son. Et on était aussi très fan de Neil Young, de Dead Man notamment, et de cette BO qui est complètement incroyable. Je pense que c'est aussi via, c'est un peu le point de rencontre avec Rodolphe par exemple. Au tout début de Limousine, j'ai quand même eu des gens dans le public qui sont venus me voir en me disant « Est-ce que tu connais Katonoma ?» Je me suis dit, ah oui, je connais Katonoma, mais qu'est-ce que c'est exactement Katonoma ? Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert Rodolphe.
Est-ce que vous connaissez Angelo Badalamenti ?
Oui, je suis très très fan.
C'est un petit peu le musicien de David Lynch.
Ouais, je crois que c'est une collaboration que j'admire profondément. Ça me donne envie de faire de la musique, ça me donne envie de continuer d'aimer le cinéma aussi. Et je crois que j'ai toujours rêvé de quelque chose comme ça.
Je vous propose un extrait du tout nouvel album de Limousine qui sort le 22 mars. J'ai choisi pour vous le titre No California. Ça évoque vaguement les États-Unis. Ça fait penser à Rachid Taha.
Thank you.
No California, cet extrait du tout nouvel album de Limousine, c'est le 4e album. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Maxime Delpierre, mais je trouve que ce morceau sent ou plutôt respire le mois d'août.
Complètement. C'est vrai, bah déjà parce qu'il a été écrit au mois d'août.
Mais ça, ce,
il a
ça
été vraiment, c'est un retour de vacances, en fait, ce morceau. Voilà.
Ça s'appelle Souvenir, ça s'appelle Échange de téléphone, de mail, août 06, août 07. Mais vous avez enregistré cet album sur 3 étés, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, on avait beaucoup de mal à se voir, hein, parce que voilà, bref, on travaillait beaucoup par ailleurs, et on avait quand même envie de faire ce 4e album de Limousine, comme ça, par envie. Et sinon, on s'arrêtait, tout simplement, je crois. On avait fait 3 albums. A priori, personne ne nous demandait réellement d'en faire un 4e, excepté quelques fans desquels on reçoit des messages dans notre boîte. Et voilà, donc on est parti sur ce 4e album, et ça a été fait, j'ai envie de dire, rapidement sur le nombre de séances qu'il y a eu. C'est simplement, ça s'est étalé énormément sur le temps. Voilà, c'était l'été.
Alors Maxime Delpierre, Rodolphe Berger, si vous êtes invité dans cette émission, c'est pour parler de cette soirée du 23 mars à Aubervilliers dans le cadre du festival Banlieue Bleue, une soirée qui sera vraiment rock la Casbah, puisque c'est un hommage à Rachid Taha. Il y a un nom qui est revenu souvent au cours de cette émission, c'est celui de Jeanne Adède, de cette chanteuse, bassiste, compositrice française. Donc Jeanne a été couronnée lors des dernières victoires de la musique. On n'a pas parlé vraiment de Rachid Taha, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc meilleur album rock de l'année, meilleure interprète féminine, Jeanne Adède. Vous l'avez déjà croisé professionnellement, Rodolphe, évidemment.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Petit festival d'Avignon en 2010, oui. Vous lui avez fait chanter Venus des Shocking Blue. Son interprétation de Gloria de Patti Smith, visiblement, a laissé pas mal de gens sur le sol, enfin bref, par
oui,
terre.
Oui, non, mais bien sûr, c'est une chanteuse incroyable, qui peut tout faire, vraiment.
Et vous l'aviez rencontrée.
Oui, on s'était rencontrés déjà, enfin croisés plus exactement, plus que rencontrés. Sur un album de John Greaves, musicien anglais consacré à Verlaine.
John Greaves, oui.
Oui. Et puis.
C'est pas celui qui fait répéter les chanteurs français quand ils veulent chanter en anglais?
Exactement.
Là, c'est l'inverse, puisqu'il voulait chanter Verlaine. Donc il avait besoin aussi d'un coach un peu. Pour
bien chanter, bien phraser le français.
Voilà. Et bon, et après, voilà, on l'a fait plusieurs fois, ce projet de bal populaire de haut niveau, quoi. Avec des invités surprises sortis du chapeau, comme Christophe, Nigela, Escher, etc. Et Jeanne avait le rôle, voilà, elle devait le caméléon vocal. Et elle a fait ça avec un brio incroyable. Et je me souviens de Christophe Martaler, qui est un metteur en scène suisse-allemand, mais qui est surtout un incroyable mélomane, musicien, qui était mais totalement fasciné. Qui est cette jeune femme avec l'accent suisse? Je veux le numéro de téléphone de cette jeune femme.
Vous l'avez, vos numéros de téléphone, Maxime
Delpierre?
Oui. Vous avez un peu produit jamais. Son premier album, premier EP.
Voilà, ça a été un EP. On avait fait un travail sur un album au départ. Et puis, petit à petit, avec des coupes et des coupes, on s'est retrouvé avec un EP. Il reste des inédites, ça.
Qui a fait le lien entre Rachid Taha et Jeanne Adède?
Ça, c'était assez étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, dès la première répétition que j'ai faite avec Rachid, les managers Francis Cartéquian et Guillaume Courchet, qui ne sont plus là non plus aujourd'hui, ont débarqué dans la salle de répète. Et puis voilà, ils ont même commencé à danser parce que ça swingait bien, il y avait une bonne ambiance, ça commençait à être chaud. Et puis ils ont dit, bon, on va tous manger un couscous. Alors on est tous partis manger un couscous, on était je ne sais pas combien, en plein après-midi. Et on est arrivé, et là vraiment le savoir-vivre absolu, quoi. Une belle table avec plein d'assiettes, plein de plats et plein de bouteilles, c'était génial. Et j'étais assis à côté de Guillaume Courchet, et au bout de 2 secondes il me dit, tu connais Jeanne Adède? Je dis, bah bien sûr que je connais Jeanne Adède, je viens de produire son premier EP, pourquoi tu me parles de Jeanne Adède? Et en fait il venait de la rencontrer grâce à Joran, qui a fait venir visiblement Guillaume à un concert de Jeanne à l'Atelier du Plateau, qui est un peu un endroit pour nous de prédilection avec cette petite famille. Vers les buts de Chaumont, et donc voilà, Guillaume a flashé sur Jeanne, ils ont commencé à discuter, et ils étaient sur le point en gros de signer Jeanne, quoi. C'était le début.
Et l'idée du duo avec Rachid Taha est née de là.
Voilà, tout à fait, c'est que Rachid était encore donc du coup en travail sur l'album Zoom, et donc voilà, elle est venue, ça s'est fait un peu comme ça spontanément, et ça s'est plutôt bien passé.
Pour Rachid Taha, le cow-boy qui se promenait toujours avec son chapeau.
Ben ouais,
l'Ouest américain.
Ah, mais il rêvait, de toute façon, lui il avait beaucoup d'imaginaire. C'est simultané, mais il avait un imaginaire américain complètement.
Et, ouais. Merci.
Merci.
Rodolphe Berger, Maxime Delpierre, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que votre actualité, c'est le 23 mars, lors du festival Banlieue Bleue, cette soirée hommage à Rachid Taha. L'album Limousine est sorti. Rendez-vous avec Rodolphe Berger à l'abbaye de Noirlac en avril avec de nouvelles compositions. On se quitte avec ce titre. En fait, c'était une chanson traditionnelle napolitaine.
Oui.
Et puis, c'est devenu Now or Never dans la bouche d'Elvis Presley, de pas mal d'autres gens, mais enfin Presley quand même. Et là, on retrouve Rachita et Jeanne Adel. Merci, messieurs. Ce fut un plaisir. Et puis, alors, de parler de Rachita, ici, c'est plutôt open bar. C'est quand on veut. Merci.
Merci.
يا عمري.